Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de références bibliques, donc il va falloir s'accrocher, il va falloir suivre. Je vous ai mis quelques petites indications et on va commencer tout de suite par Acte 26, que le Seigneur nous guide dans ce message. Acte 8, 26, pardon, Acte 8, 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi. Et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, pardon, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant lui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors voilà, dans ce passage, l'eunuque a posé une question importante. Fondamentale. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Autrement dit, qu'est-ce qui m'empêche, maintenant que j'ai cette explication, de m'engager plus avec le Seigneur, de mieux le servir? Alors nous allons dresser une liste non exhaustive de ceux ou ceux qui peuvent nous empêcher de faire ce qu'on a imaginé pour servir le Seigneur. Et ça ne va pas être exhaustif, il y en a beaucoup. Donc, un qui veut nous empêcher, spécialement, c'est le diable, hein. Je ne vous apprends rien. On va prendre dans Luc 16 la femme courbée guérie par Jésus. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais certaines de nos incapacités sont liées à Satan. C'est lui qui veut nous attaquer. Parfois, ce sont des attaques gratuites, hein, il veut nous faire le plus de mal possible. Parfois, il y a des malédictions qui sont lancées contre nous. Satan a attaqué Job simplement parce que voilà, c'est sa nature d'attaquer, de faire du mal. Mais voilà, il faut discerner si c'est une attaque spirituelle. Voilà, donc dans cet exemple-là, par exemple, Jésus, il avait évidemment bien discerné la cause et il a apporté en même temps la solution. On se rappelle que si Satan a le pouvoir de nous maudire pour trois générations, Jésus, lui, a le pouvoir de nous protéger, de nous bénir sur 1 000 générations. Hein, et puis 1 000, c'est un chiffre symbolique, c'est largement assez jusqu'à son retour sur cette terre. On va prendre un autre exemple dans 1 Thessaloniciens 2,18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous a empêchés. Hein, donc on saurait être plus clair, Satan veut s'opposer à tous ceux qui veulent aller répandre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Donc Paul, comme nous, eh bien, en a été empêché. Il y a un chrétien qui avait pris l'habitude de dédicacer les Bibles qu'il offrait ainsi. Alors, je vous cite ça de mémoire, hein, donc c'est pas peut-être pas exactement au mot près, mais il mettait sur la page de couverture à la personne à qui il offrait les Bibles: soit cette parole de Dieu va te garder pour toute ta vie, soit si tu te gardes de lire cette parole, soit Satan va te garder, pardon, de lire cette parole. Donc, il mettait en opposition le fait que, et puis d'avertir en disant, voilà la Bible, la parole de vie, Satan va essayer de t'empêcher de la lire. Voilà, d'ailleurs, il y a des combats parfois, comme quand on est fatigué ou autre, c'est pas toujours Satan, mais voilà, il y a des combats pour lire la parole. Jésus ne voulait absolument rien avoir avec Satan. Hein. Il a résisté à la tentation. Il a dit Satan n'a rien en moi. Et un autre qui a déjà préfiguré ça, c'était Abraham. Il avait reconnu, souvenez-vous, en Melchisédek, un personnage important. Et il voulait rien avoir avec le roi de Sodome. Il l'avait pressenti comme une figure de Satan. On va lire dans Genèse 14, 21 à 23. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, « J'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Donc le meilleur moyen de ne pas nous faire empêcher comme ça par Satan dans ces différentes situations, c'est de discerner avec le Saint-Esprit, de ne pas se laisser embarquer dans des situations compliquées. Là, Abraham, il a dit « Non, le roi de Sodome, ce n'est pas quelqu'un de recommandable, je ne veux rien avoir à faire avec lui. » Pourquoi un fil ? Eh bien, vous savez, quand on vous entoure avec un fil, facile, on écarte les bras, on s'en libère. Deux tours, trois tours, on s'en libère facilement. Mais si on fait une dizaine de tours, une quinzaine de tours, ben c'est comme le péché. Hein. Au bout d'un moment, on est dans la situation et là, il n'y a plus moyen. Hein. C'est un peu comme Samson. Au début, il pensait se défaire facilement et puis finalement, il s'est fait prendre au piège. Donc voilà, c'est les techniques du diable, on les connaît, la Bible nous prévient. Voilà, faisons comme Abraham, on discerne et on peut avancer avec le Seigneur. Donc il y a plein d'exemples, on ne va pas tous les citer. Alors, là j'ai parlé du diable, mais parfois, qu'est-ce qui nous empêche ? Eh bien, ça peut être étonnant, mais c'est Dieu. Dieu peut nous empêcher d'avancer dans certaines directions. On n'oublie pas que Dieu connaît toutes les circonstances, passées, présentes, futures. Et il connaît aussi nos motivations, il sait pourquoi il doit nous dire d'avancer ou de s'arrêter. Donc dans Actes 16, 6, on voit que les apôtres se laissent guider par le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, oui, voilà, c'est ça, pardon. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. On voit, c'est pareil au verset 7. Donc Dieu nous permet même d'annoncer sa parole. Hein, là, c'est ils allaient pour annoncer la parole, si ce n'est pas le bon endroit, ou pas le bon moment, ou pas les bonnes personnes. Alors les bonnes personnes, hein, c'est pas un jugement moral, hein, c'est les personnes que Dieu a choisies pour parler à ce moment-là. Voilà, donc la mission, c'est important, on ne peut pas être partout en même temps. Et le temps est court, donc Dieu nous annonce où nous devons aller, où on doit être à l'écoute. Et quand Dieu nous dit non, eh bien, c'est qu'il nous réoriente après vers la bonne direction. Et c'est important de pouvoir discerner là aussi. Voilà, par exemple, un qui n'écoutait pas, c'est Balaam, hein, qui a eu quelques petits problèmes avec son ânesse. Mais c'est Dieu en fait hein, qui résiste à Balaam et qui l'empêche d'aller où il veut. Je suis désolé, hein, je vais être très allusif parce que sinon il y a matière à passer beaucoup de temps en fait sur ce genre de sujet. Mais en fait, c'est pour ça aussi que je vous ai mis les versets que vous puissiez les réétudier plus tranquillement. Voilà, donc là où va Balaam, c'est un chemin de perdition. Hein. Et dans un cas comme ça, si on veut passer outre, eh bien, c'est comme regimber contre les aiguillons, hein, c'est difficile. Heureusement que Dieu a arrêté son ânesse, sinon il tuait Balaam. Et ça aurait été la fin pour lui. Donc on va prendre un autre exemple. Dans 1 Roi 17, David qui veut bâtir le temple. Donc Salomon dit, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. Voilà, quand Dieu dit non, c'est pas juste pour faire preuve d'autorité et montrer que c'est lui le chef. Hein, comme on l'a déjà dit, il connaît les circonstances, il connaît les motivations, et il a toujours une bonne raison. Hein. Là, c'est David n'aurait pas jamais pu préparer le temple sans l'aide de Dieu, Dieu qui avait disposé les cœurs, il lui a donné à David l'envie de lui construire cette maison. David a préparé finalement les matériaux pour le temple, c'est une aide matérielle pour son fils Salomon, mais aussi une aide immatérielle avec ses contacts. Le roi Hiram a beaucoup fourni, il a eu de l'aide des meilleurs artisans. Enfin, voilà, c'est quelque chose que Dieu avait préparé. Ça n'aurait pas été possible du temps de David, mais il l'a annoncé à David. Hein, ça a pu se faire, le temple a pu se faire. On a aussi. Ben, Dieu ne fait rien non plus sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes, dans Amos 3,7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, bien sûr, hein, il simplifie pour nous, il ne va pas nous donner tout le déroulé, parce que lui, il maîtrise une infinité de paramètres, mais voilà, là, dans ce cas-là, c'était la meilleure solution. Voilà, donc tout ça pour dire que quand c'est Dieu qui empêche de faire quelque chose ou de le faire au moment où on veut, il vaut mieux obéir et passer à autre chose sans discuter en attendant de nouvelles directives, parce que ce sera toujours le meilleur. Si le Saint-Esprit nous arrête dans notre élan, donc à part dans les cas légitimes où on a besoin de repos, de formation ou de restaurer des relations, voilà, quand le Saint-Esprit nous arrête, c'est pour ensuite passer à l'action. Et c'est pas pour rester comme Jonas à se lamenter sous un genêt, puisque les gens qui ne bougent pas, eh bien c'est problématique, puisque Jésus nous dit dans Apocalypse, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà, donc si c'est pas assez clair, on est vraiment appelé à l'action. Et pas à la passivité. Voilà, mais donc là, on a vu qu'il y avait le diable, qui parfois pouvait nous empêcher d'avancer, parfois c'était Dieu, pour les bonnes raisons cette fois-ci. Il y a d'autres facteurs qui ne sont pas forcément l'un ou l'autre, c'est la forteresse des pensées. Dans Nombre 13, 32 à 33, donc c'est le. On est dans l'exploration de Canaan et les 12 espions qui viennent et qui disent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Voilà. Au lieu de regarder à la puissance de Dieu, qui est objectivement beaucoup plus puissant que ces géants, ils vont élucubrer sur ce qu'ils pensent d'eux, sur ses adversaires, et exagérer hein, de manière éhontée. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, bon, mettons que les géants soient deux fois plus grands qu'eux, voilà. Si on prend une sauterelle, hein, s'ils étaient vraiment à leurs yeux comme des sauterelles, c'est quoi 2 cm une sauterelle, une personne, les mêmes petites personnes, 1,50 m, 75 fois plus grand que la sauterelle, est-ce qu'ils étaient vraiment à leurs yeux comme des sauterelles? Non, c'est une exagération, c'est dans leur tête, hein. C'est loin d'être la réalité. Et puis ceux qui, par la foi, Caleb et Josué, voulaient entrer, n'ont pas du tout eu cette pensée qui était très loin de la réalité et très loin de la volonté de Dieu. Voilà, donc les pensées peuvent nous empêcher d'agir pour le Seigneur, hein. Ça peut venir aussi d'un esprit de timidité qui ne vient pas de Dieu. Donc, si on prend 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc autrement dit, ce sont bien nos pensées qui nous limitent. Mais la cause de départ est spirituelle, parce que dans la traduction du grec au français, l'esprit de timidité, on pourrait aussi traduire par un esprit d'intimidation. Ainsi, si la Bible parle d'esprit, c'est que, avant d'arriver dans les pensées, il y a une cause spirituelle. Donc, on prend le cas, par exemple, d'une personne à fort caractère, hein, c'est encore pire pour quelqu'un qui a une pathologie de la personnalité. Donc, derrière cette personne-là, ou un groupe de personnes, quand il y a une intimidation, il y a parfois des causes spirituelles. Donc, il y a des esprits qui veulent nous bloquer pour ne pas que nous accomplissions l'œuvre du Seigneur. Voilà, donc il faut se libérer de telles emprises, couper les relations avec de telles personnes et ne pas nous laisser intimider, vraiment avancer dans notre marche avec le Seigneur parce qu'il a prévu quelque chose pour nous, il ne s'agit pas de s'en détourner, il ne s'agit pas d'être arrêté dans notre élan. Alors parfois on va chercher des choses bien compliquées, chercher des causes spirituelles, etc. Mais c'est simplement nous qui nous faisons un film, hein, on peut simplement laisser nos pensées vagabonder. Donc là, on manifeste simplement les œuvres de la chair. Donc la chair qui est contraire à la foi. Donc si on laisse la chair se développer, eh ben, nos pensées ne vont pas être celles du Seigneur. Et puis ça va assez vite, hein, de passer de la chair à l'esprit ou de l'esprit à la chair. On en a un exemple biblique, hein, quand Jésus reprend Pierre. Donc juste avant, Pierre venait de déclarer que Jésus était le Christ, hein, sous l'influence du Saint-Esprit. Mais, dans Matthieu 16, 23, « Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà, donc les pensées des hommes, autrement dit, la chair, quand elles prennent le pas sur celles de Dieu, Jésus nous appelle Satan. Enfin, ça va vite. Donc, Jésus ne se laisse pas impressionner par le fait que Pierre a prophétisé juste avant. Hein. Il a dit quelque chose qui venait de Dieu. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère que Jésus nous appelle Satan. On doit bien garder nos pensées, se nourrir des bonnes choses, de la parole, de tout ce qui vient de Dieu. Choisir nos fréquentations, nos amis, nous encourager dans la prière, la louange. Voilà, nourrir nos pensées par notre esprit, hein, de bonnes choses. Voilà, ce sera un bon point de départ, de bonnes habitudes de vie. Et parce que quand on prend de bonnes habitudes de vie, eh bien après, on peut déclarer avec Paul, dans 2 Corinthiens 10, 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voilà, et c'est avec ces armes spirituelles que nous pourrons renverser, hein, ces forteresses, comme il est mentionné juste avant dans 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Alors, il y a un autre facteur, hein, qui nous bloque parfois, c'est le monde, hein, l'esprit du monde qui est très lié à Satan et à la chair. Donc, je ne vais pas développer beaucoup cette partie, je vais prendre quelques illustrations quand même. Alors que ce soit les hommes ou les femmes, souvent on cherche à ressembler à un idéal qui vient du monde, hein. Ça change, les critères changent avec les époques, avec les cultures. Voilà. Donc si on prend l'exemple des Hébreux, hein, déjà à l'époque ils louchaient sur leurs voisins, à côté c'était toujours mieux, ah, bah, à côté ils avaient un roi, donc nous aussi on veut un roi, bah, à côté ils font des fêtes, ils dansent, nous aussi on veut danser comme eux. Voilà, c'était une influence qu'ils voyaient, qui se passait sous leurs yeux. Maintenant, bon, bah, ce sont les médias, ce sont les magazines, ce sont les Internet. Voilà. On va prendre par exemple, à notre époque, l'exemple d'un certain type de féminisme qui puise son inspiration dans les réseaux sociaux, dans Internet, etc., qui donne une certaine vision, d'ailleurs changeante, hein, ça, les nouvelles se répandent à la vitesse de l'éclair, les modes changent. Mais dans la Bible, il y a des descriptions qui sont plus ancrées dans la réalité, plus accessibles, et bien sûr fondées sur la parole de Dieu. On va lire ensemble Proverbe 31, 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Voilà donc, il y a quelques descriptions qui ont un petit peu changé dans la vie moderne, mais le fond reste exactement le même. On va plus filer la laine et mettre la main à la quenouille, mais voilà, je ne sais pas pour vous, messieurs, mais moi, je reconnais bien ma femme dans cette description. Et voilà, c'est une bénédiction que les femmes, comme les hommes, s'appuient sur la parole pour ressembler, avoir le caractère de Dieu. Alors, un autre facteur qui peut nous empêcher d'avancer avec le Seigneur, c'est le temps. Hein, le temps sur cette terre n'est pas extensible, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être partout. Donc, la seule manière d'avancer, c'est de gérer ses priorités. Hein, c'est beaucoup plus facile de laisser filer le temps que de l'organiser de manière intentionnelle, en réservant des créneaux avec le Seigneur et en prenant ces moments d'intimité avec lui. Donc, ne nous laissons pas piéger par le temps parce qu'il est plus tard qu'on ne le croit. Si on laisse filer le temps, je ne sais pas si vous connaissez ce roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares. C'est un roman allégorique et c'est un jeune homme qui entre comme militaire et puis il vieillit sans même s'en apercevoir. Et au début, il monte les escaliers, les marches deux à deux. Et puis, il se sent vieillir finalement quand il marche péniblement. Et puis, il s'aperçoit qu'il a laissé filer sa vie et il n'a même pas participé aux batailles. Il s'en rend compte vraiment au dernier chapitre. Voilà, donc, pour éviter de tomber dans cet écueil, il faut se poser les bonnes questions et attendre. Hein, qu'est-ce qui empêche maintenant, par exemple? Qu'est-ce qui empêche de servir le Seigneur maintenant? Parce que quand le ministre de Candace a parlé, il n'a pas dit qu'est-ce qui empêchera que je sois baptisé? Ou qu'est-ce qui m'a empêché par le passé de connaître le Seigneur? Et pas rester sur un constat d'échec. Il ne s'est pas plaint que personne ne lui avait expliqué la parole avant. Non, non, il a saisi les circonstances présentes et dit qu'est-ce qui empêche, hein, si on avait la version, la Vulgate en latin, hic et nunc, qu'est-ce qui empêche ici et maintenant? Voilà, donc, parce qu'au fond de lui, il savait que c'est pas une question, c'est pas une vraie question finalement, c'est une question rhétorique et non pas une question théorique. Attention, c'est un anagramme. Finalement, il était bouillant pour le Seigneur. Avec lui, il avait un apôtre, Juste là, il y avait de l'eau. Donc, il savait que rien n'empêchait d'être baptisé. Il a posé la question, mais c'était... Il voulait l'approbation, et il voulait être sûr. Donc, c'était... C'est une fausse question, en fait. C'est une fausse question, puisque rien n'empêche d'être baptisé. Et il a saisi cette occasion, et il a été béni. Philippe aussi, d'ailleurs, puisque... Ça devait être une grande joie d'avoir pu participer à cette aventure et continuer sa tournée. Voilà, nous, dans notre époque moderne en France, héritière de la pensée grecque, hein, on parle de questions, de théories. Voilà, c'est très théorique. Hein, on élabore des systèmes de pensée complexes, hein, pour un idéal finalement jamais atteint. C'est typiquement la philosophie dans son acception la plus abstraite. On raisonne pour le futur, c'est un changement lointain et purement hypothétique. Mais au fond, dans la pensée grecque, dans l'humanisme que ça a donné, ce qui compte, c'est pas vraiment les fruits immédiats, c'est de manipuler des concepts, de débattre. Ça peut évoluer avec le temps, avec la réflexion, mais la finalité, c'est simplement de débattre. Ça ne porte pas de fruits. Il n'y a rien qui débouche sur une mise en œuvre concrète, rapide. Or, que nous dit la parole dans Hébreux 3,15 « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Donc c'est répété plusieurs fois. Hein. Dans la Bible, répété plusieurs fois, c'est vraiment important, c'est « aujourd'hui ». Donc l'idée de ne pas tarder à faire sa volonté, on le trouve partout dans la Bible. C'est important, quand on est confronté à la parole, à une situation qui vient de Dieu, dans 2 Corinthiens 8,11, « Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. » Et non de ce qu'elle n'a pas. Vous voyez la différence avec la pensée grecque. Là, il s'agit d'agir avec ce que le Seigneur a mis dans nos mains, même si c'est 5 pains et 2 poissons, ça suffit. On n'a pas besoin de se lamenter de ce qu'on n'a pas. On a déjà quelque chose, on a tous reçu quelque chose. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir atteint un haut niveau de sainteté, un haut niveau intellectuel, un haut niveau de langue, un haut niveau de richesse, ou d'avoir atteint un grand âge, ou d'être un puits de sagesse, ou de science. Non, non. On part de ce qu'on a et de ce qu'on est. On agit à notre petit niveau, et c'est Dieu qui accomplit les grandes œuvres. C'est lui qui porte de grands fruits et qui accomplit les miracles. À une condition, c'est que nous soyons fidèles dans les petites choses. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous le serons dans les grandes. Et je voudrais illustrer ça parce que j'ai rencontré, il y a des années maintenant, au Mexique, un jeune homme de 16-17 ans à l'époque. Il venait d'une famille pauvre. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent. Sa mère était morte d'un cancer. Son père était restaurateur. Et pour payer les traitements avant que sa mère ne décède, il s'était endetté sur des décennies. Il payait les dettes tous les jours. Et parce qu'il avait emprunté à des taux énormes. Mais ce jeune homme, malgré voilà, toutes les difficultés qu'il avait, eh bien, dès qu'il avait quelques pesos en poche, qu'est-ce qu'il faisait? Il investissait dans des Bibles et il les offrait à ses amis, il leur offrait ce qu'il avait de plus précieux. Alors pour nous, acheter des Bibles, on peut en acheter des centaines, des milliers, il y a des Bibles à 1 euro maintenant, mais pour lui, c'était toute sa fortune. Et donc, c'était de l'argent qu'il avait durement gagné, et il donnait, pour lui, c'était le meilleur. Il offrait la parole, et puis il a porté du fruit pour ça, il est devenu pasteur entre-temps. Voilà, donc, c'est important, son investissement dans le royaume de Dieu n'a pas été vain, il a agi, et il ne pouvait pas dire qu'il manquait de moyens, il avait très peu de moyens, et pourtant, il a fait moi, ça m'a beaucoup touché. Alors un autre exemple d'action dans le livre de Ruth. Qu'est-ce qui empêchait que Boaz se marie avec Ruth? Ben, il a fallu que Naomi le mette subtilement en piste pour qu'il prenne conscience qu'il avait un projet très concret, très intéressant de mariage à mener. Mais voilà, une fois qu'il a pris la mesure de la situation, ben, rien ne l'a arrêté, puisque Ruth dit Enfin, Naomi dit à Ruth, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Elle était sûre d'elle, hein, mais effectivement, c'est ce qu'il a fait. Donc, heureusement que parfois il y a les femmes hein, pour nous pousser, nous les hommes, à prendre nos responsabilités. Voilà, quand c'est inspiré, il faut foncer, il faut y aller. Parfois, on est pris par notre quotidien, on a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, moi, parfois, il y en a qui vient me dire, tiens, tu peux faire ça. Ah, quand ça? Ben maintenant, là. Ah, d'accord. Et voilà, donc, ça nous sort aussi d'une certaine inertie. Voilà, donc, pour revenir à Boaz, hein, le fruit, c'est quand même qu'il est un ancêtre de David et de Joseph, de la lignée terrestre de Jésus. Donc, son action, ce qu'il a entrepris, ça a apporté du fruit. Il a préparé la famille dans laquelle Jésus est venu. Hein. Le Seigneur avait préparé les choses depuis bien longtemps. Voilà, on peut prendre des exemples un peu plus récents aussi, hein, qui changent des vies. Pour ma part, moi j'ai toujours été, même si j'en étais pas conscient, j'ai été beaucoup béni par le fait de pouvoir avancer. Par exemple, j'ai fait une terminale littéraire et pourtant j'ai fait un IUT d'informatique. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche de poser ma candidature? Voilà, ma professeure de mathématiques ne faisait jamais de mot de recommandation, mais je lui en ai demandé un. Hein. Je l'ai rencontré quelques années après, je l'ai remercié, elle m'a dit, je ne fais jamais de mot de recommandation. Parce que c'était difficile, et il m'avait dit non, on ne prendra pas de littéraire dans l'IUT. Et pourtant, elle l'a fait. Et à l'IUT d'informatique, c'est là que j'ai rencontré Olivier, le fils de Michel et André. C'est là que j'ai pu connaître cette église, dans laquelle j'ai eu beaucoup de bénédictions. Là, j'ai reçu le baptême, j'ai rencontré Yuno, on pourrait dire plein de choses. Voilà, et finalement, c'est... au départ, voilà, le groupe de jeunes me disait, tiens, mais tu viens dimanche prochain? Ah bah oui, pourquoi? Bah oui, qu'est-ce qui m'empêche de venir? Et puis, tu viens encore dimanche prochain? Ah bah oui, oui, tu viens. Et puis, un jour, ils ont arrêté de me poser la question, puisque je venais tout le temps. Voilà, donc je vais prendre aussi un autre exemple, un petit peu plus récent que les exemples bibliques, c'est Claude Lelouch. Est-ce que vous connaissez ce réalisateur? Voilà, il est né en 1937, hein, il était tout jeune pendant la guerre, et il était juif. Et... il a été caché, mais à un moment, les nazis ont débarqué dans la classe où il était et ils ont vérifié tous les garçons, s'ils étaient circoncis, ils l'étaient, évidemment. Mais au moment où ils allaient l'embarquer, sa maîtresse a dit « Ah non, 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 lui, il n'est pas du tout juif. Hein. Lui, il faisait pipi de travers. Donc, ils l'ont opéré à cause de ça. » Alors, les nazis, un peu suspicieux, disent « Bon, disent, oui, regardez, en plus, c'est un bon chrétien, il connaît le Notre Père, elle lui a fait réciter le Notre Père, elle lui avait appris quelques jours avant. » Il a récité le Notre Père, et les nazis ont été bernés, et elle a risqué sa vie, elle a sauvé cet enfant. Voilà, donc, voilà comment concrètement, beaucoup de chrétiens, on a eu aussi... Kevin, qui était venu dans l'église pour ce Kevin Chamard, pour ceux qui l'ont connu il y a quelques années, il venait du Chambon-sur-Lignon. Voilà ce village qui a sauvé, je ne sais pas combien de dizaines, de centaines d'enfants. Voilà, ils étaient protestants et ils ont mis en œuvre tout ce qu'ils ont pu. Il n'y a pas eu une trahison. Et voilà, c'est des fruits qui, moi, me touchent beaucoup, en tout cas. Donc, il y a beaucoup de héros encore méconnus, mais voilà, qui réjouissent le cœur du Seigneur. Donc, en conclusion, je ne sais même pas si je vous ai... Oui, pas encore. Nous avons parcouru la Bible, hein, les principes d'action distillés par Dieu, hein, tout au long des chapitres de la parole. On en trouverait beaucoup. Là, ce n'est qu'une synthèse, un aperçu, un survol vraiment rapide. Mais pour autant, c'est bien d'avancer, mais pas n'importe comment. Hein. C'est pas, la question, ce n'est pas qu'est-ce qui empêche de faire n'importe quoi, qu'est-ce qui empêche de foncer sans réfléchir. Nous sommes libres, mais, comme dit Galates 6,7, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Voilà, donc c'est important, comme on disait tout à l'heure, la relation avec Dieu, discerner quelle est sa volonté, c'est la clé pour pouvoir avancer dans les projets qu'il a pour nous. Ça implique du temps d'intimité régulier avec Dieu, de pouvoir être dans la louange, dans la prière, de pouvoir être dans sa chambre, parler au Seigneur, recevoir de lui, méditer la parole. Voilà, le Seigneur, il nous connaît, il ne nous en voudra jamais d'avancer de bonne foi dans une mauvaise direction. On peut se tromper, on se trompe tous. Par contre, il nous en veut si on ne fait rien du tout. Hein, vous savez, comme le paresseux qui dit « Ben non, je ne sors pas, il y a un lion dehors. » Donc, mettons-nous en route, et Dieu va se révéler à nous en chemin, il va nous corriger, c'est pas grave, si on dévie un peu, il enverra du monde pour nous remettre sur la bonne voie, comme nous, il va nous envoyer pour parler à d'autres chrétiens. Il y a un roman, hein, le Voyage du pèlerin de John Bunyan, qui illustre ce voyage du chrétien de manière métaphorique. Ce chrétien qui se met en route, il lui arrive beaucoup d'aventures, mais Dieu est toujours présent, et à chaque étape de sa croissance, à chaque étape de son voyage, et à chaque épreuve, Dieu est là, il lui permet de passer, de grandir, et ça c'est le plus important. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Voilà donc, on va de l'avant, on ne reste pas bloqué sur le passé, puisque la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il y a beaucoup d'invités hein, au festin auquel nous invite Jésus, mais ceux qu'il avait appelés en premier ne sont pas tous, n'ont pas tous répondu à l'appel, loin de là. On peut dire dans le passage de Luc, que vous avez en référence, 14, 16 à 24, en langage moderne, hein, les gens donnent des excuses bidons. Ils ne peuvent pas venir pour plein de raisons. Alors Jésus nous envoie, nous, remplir sa table avec tous ceux dans les rues, dans les chemins. C'est à ça que nous sommes appelés. Et il y a de la place. Il y a de la place. Et Jésus dit, il y a encore de la place. Venez, allez en chercher davantage. Voilà notre ordre de mission. Hein. Ce n'est pas le moment de faiblir, puisque comme Paul, nous devons mener le bon combat, achever la course et garder la foi. De Timothée 4, versets 7 à 8. Donc maintenant, nous allons prendre un moment et nous poser la question individuellement. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer davantage avec le Seigneur? Donc si vous avez des difficultés dans un ou plusieurs domaines de votre vie chrétienne, si vous voulez tout simplement, si vous n'avez pas de problème particulier, mais que vous voulez tout simplement vous engager davantage et que vous voulez aller plus loin, on va avoir un petit moment de ministère. Donc il y a Charles et son équipe qui vont prier, si vous voulez vous avancer,